le journal présenté par Valentine Joubin.
Bonjour à tous. Un gouvernement indépendantiste bientôt destitué, un président bientôt limogé et des élections régionales bientôt organisées. La mise sous tutelle de la Catalogne est en marche. Le Premier ministre a déclenché hier l'article 155 de la Constitution. Quelles sont les prochaines étapes de cette crise inédite? On voit cela en détail avec Mathieu de Taillac. Dans ce journal, nous parlerons aussi de la situation politique en Argentine. Les électeurs doivent renouveler le Parlement. Mais ce qui mobilise l'opposition en ce moment, c'est la mort d'un jeune activiste. Son corps a été retrouvé dans des conditions assez mystérieuse. L'actualité en France est écologique. 40 maires du monde entier sont réunis aujourd'hui et demain à Paris à l'occasion du Climate for Change, un séminaire contre le réchauffement climatique. Et puis nous irons aussi à Lyon où malgré les vacances scolaires, des parents occupent une école, un établissement où 10% des élèves dorment chaque nuit dans la rue. Drapeau catalan sur le dos, 450 000 manifestants se sont rassemblés hier à Barcelone en soutien à Carles Puigdemont. Le président du Parlement catalan est menacé de destitution par le gouvernement espagnol. C'est une des conséquences de la mise sous tutelle de la Catalogne décidée hier par le chef du gouvernement. Des élections régionales seront organisées d'ici 6 mois. C'est la pire attaque contre la Catalogne depuis Franco, a dénoncé Carles Puigdemont. C'est en tout cas une procédure inédite a enclenché hier Mariano Rajoy à Madrid, Mathieu de Taillac.
Mariano Rajoy prévoit d'activer l'article 155 de la Constitution et de destituer tous les ministres du gouvernement régional catalan ainsi que leur président. Ce dernier, Carles Puigdemont, a décidé en réponse de demander au Parlement catalan de se réunir en séance plénière pour y déclarer l'indépendance une fois pour toutes. Non, pas officiellement en tout cas. Il s'agirait de débattre, je cite, de la liquidation de l'autonomie qu'aurait perpétré Rajoy. Une réponse presque raisonnable. Sauf que si Puigdemont avait dit vouloir déclarer l'indépendance au Parlement, il aurait donné des arguments à la Cour constitutionnelle pour interdire cette séance plénière. Les indépendantistes connaissent cet écueil car, après le référendum d'autodétermination du 1er octobre, ils avaient convoqué une autre séance autour d'un motif anodin, analyser la situation politique. Puigdemont avait alors profité de cette séance pour évoquer une déclaration d'indépendance et proposer sa suspension. L'histoire pourrait se répéter, on ne peut pas exclure que la semaine prochaine, une déclaration d'indépendance soit votée par le Parlement catalan, cette fois-ci en bonne et due forme. Ce serait alors un excellent motif pour Rajoy de persévérer dans son idée de suspendre l'autonomie de la Catalogne en rejetant la faute sur les dirigeants sécessionnistes.
Pour être validée, la mise sous tutelle de la Catalogne doit encore être validée par le Sénat. L'examen va commencer demain lundi. La crise en Catalogne peut mener à une dislocation dangereuse, mise en garde de Jean-Yves Le Drian. Dans une interview au journal du dimanche, le ministre des Affaires étrangères français espère que les élections régionales annoncées par Madrid permettront de clarifier la situation. C'est un référendum qui serait sans doute passé inaperçu sans la crise en Catalogne. Les électeurs de Lombardie et de Vénétie, les deux régions les plus riches d'Italie, sont appelés aux urnes aujourd'hui. Ils doivent se prononcer pour ou contre plus d'autonomie. Le scrutin est organisé par la Ligue du Nord, le parti d'extrême droite qui gouverne les deux régions. Mais le oui est soutenu par une large partie de la classe politique italienne. À chaque continent ou presque, son élection, élection législative là aussi en Argentine. Et là, c'est encore la formation du président au pouvoir, Mauricio Macri, qui est favorite. L'Argentine, où des milliers de personnes ont manifesté hier dans la capitale pour réclamer des explications après le décès d'un activiste de l'opposition. Le corps de Santiago Maldonado a été retrouvé cette semaine, soit plus de 2 mois après sa disparition. On ne l'avait plus vu depuis une manifestation à laquelle il avait participé en Patagonie pour défendre un peuple indigène. Les explications de notre correspondante à Buenos Aires, Caroline Vic.
C'est bien Santiago. Ce sont les premiers mots de son frère aîné au journaliste amassé devant la porte de la morgue de Buenos Aires. Après 2 mois et demi d'une médiatisation intense et d'incompréhension, la famille Maldonado a pu reconnaître Santiago grâce à ses tatouages. Puis une équipe de 55 experts, légistes et techniciens a pu prélever les empreintes digitales pour confirmer scientifiquement son identité. Selon les premiers éléments rendus publics, le corps ne porte pas de blessure particulière ni de signe d'agression. Il pourrait donc s'agir d'une noyade, car rappelons le 1er août dernier, Santiago, artisan solidaire des Mapuche, avait fui la répression de la gendarmerie. Tous ses compagnons avaient traversé un fleuve, sauf lui, resté accroché à un arbre sur la rive. Selon des témoins, il aurait été attrapé par les gendarmes, puis plus de nouvelles pendant 80 jours. Le fleuve a été passé au peigne fin 4 fois sans résultat. jusqu'à mercredi dernier, où l'on aperçoit avec surprise un corps flotté à 300 mètres du lieu de la répression. Santiago s'est-il noyé? L'a-t-on noyé? A-t-il été tué puis jeté dans le fleuve? L'autopsie tentera de déterminer les causes de sa mort. En attendant, le gouvernement ne cesse de nier sa responsabilité, bien qu'il ait donné l'ordre de réprimer. Une posture qui pourrait bien lui coûter cher politiquement, alors qu'aujourd'hui même, les Argentins sont appelés aux urnes pour les élections législatives.
Au Brésil, c'est une mesure qui semble venue d'un autre temps, d'un temps où il n'était pas encore question des droits des travailleurs. Le gouvernement a publié en début de semaine une ordonnance qui vise à redéfinir le travail esclave. Une décision qui fait scandale. Les explications de Marino Dacher à Sao Paulo.
Les mots de la ministre brésilienne des droits de l'homme sont durs. Cette décision détruit, tue et décapite la loi de l'abolition de l'esclavage votée en 1888. Ce combat, selon Luiz Linda Valois, petite fille d'esclave, est celui de millions de Brésiliens qui travaillent encore au XXIe siècle dans des conditions proches de l'esclavage, dans l'un des derniers pays à avoir officiellement aboli cette pratique. Conséquence de cette ordonnance, les conditions de travail qui s'assimilent à de l'esclavage moderne se limiteront à la privation de liberté en omettant notamment les conditions dégradantes, comme c'est le cas dans les fermes, les usines ou même pour les travailleurs domestiques. À ce jour, prouver l'existence de travail forcé, d'horaires abusifs ou de dettes imposées par l'employeur suffisait aux inspecteurs pour qualifier une situation de travail analogue à de l'esclavage et inscrire les entreprises dans la liste sale. Une liste qui dénonce depuis 2003 les employeurs coupables d'esclavage moderne. Mais depuis un an déjà, le budget dédié à la lutte contre le travail esclave a baissé d'un tiers, de 106 interventions, sauvant plus de 650 personnes en 2016. On est passé à moins de 30 cette année, libérant 110 esclaves modernes. L'Amazonie concentre le plus grand nombre de victimes, notamment dans l'état du Pará, avec 10 000 travailleurs sauvés par les inspecteurs du travail depuis 2003. En signe de désaccord avec cette décision, les inspecteurs du travail sont entrés en grève, arguant que ces nouvelles règles enfreignaient la constitution brésilienne. La représentation des Nations Unies au Brésil a, elle, manifesté vendredi sa profonde inquiétude. Le Brésil était devenu une référence mondiale sur le sujet, mais d'après Antonio Carlos de Melo Rosa de l'Organisation internationale du travail, c'est un recul lamentable.
Correspondance à Sao Paulo signée Marie Nodacher. En France, près de 40 maires venus du monde entier se retrouvent aujourd'hui et demain à Paris. Ils participent au Together for Climate, Ensemble pour le climat en français, un séminaire organisé par le réseau international C40 qui regroupe les grandes villes engagées contre le réchauffement climatique. Deux jours de discussion et un défi, Rosalie Lafarge, faire avancer les choses pour la planète.
Du maire de Londres à celui de Los Angeles, en passant par ceux de Bogota, de Milan ou d'Auckland, tous se retrouvent autour d'Anne Hidalgo, la maire de Paris. Pendant deux jours, ils vont partager leurs expériences en matière de lutte contre le réchauffement climatique, ce qu'ils ont mis en place dans leur ville au niveau énergie, mobilité, urbanisme, si ça fonctionne ou pas. Plusieurs entreprises qui travaillent sur la ville de demain sont elles aussi conviées. Tout ça pour retenir les meilleures initiatives, celles qui permettront d'atteindre les objectifs fixés par l'accord de Paris. Aujourd'hui, dans les grandes villes, on estime qu'un tiers des émissions de gaz à effet de serre vient des transports et que la circulation est la source de pollution de l'air la plus importante. Enjeu environnemental, évidemment, mais aussi de santé publique. C'est donc là-dessus que les maires vont plancher avant d'annoncer demain leurs engagements en la matière.
Ce week-end, que vous soyez concerné ou non, cela ne vous a sans doute pas échappé. Les vacances de la Toussaint ont commencé. Les écoles ont fermé leurs portes partout en France, mais à Lyon, il y a encore de la lumière à l'école Lucie Aubrac. Une quarantaine de parents d'élèves occupent depuis hier soir les locaux qui appartiennent à la mairie. Ils dénoncent le fait que dans cette petite école de quartier, deux enfants par classe, soit 10% des élèves, dorment chaque nuit dans la rue. Laura Lavenne.
Devant l'école quartier chic de Lyon, un drap flotte. Il rappelle qu'ici, 12 enfants dorment dans la rue.
Mademoiselle, est-ce que vous savez que dans notre école, 12 enfants sont sans abri? Nous essayons d'alerter le préfet sur la...
Mathilde arrête les passants, pétition à la main.
C'est une question de jour, là, quand même. Les enfants qui dorment dehors, on ne peut pas attendre.
Car dans la classe de son fils, deux élèves sont sans logement.
Voilà, j'ai essayé de lui expliquer qu'on se mobilisait pour des enfants qui, avec leur papa et leur maman, dormaient dehors. Il a dit d'ailleurs, c'est pas normal, je vais le dire à la maîtresse.
À ses côtés, assis à l'intérieur sur des bancs taille enfants, Xavier Camp dénonce. Pour lui, la prise de conscience a été brutale.
Quand votre enfant, c'est le soir, et vous lui racontez l'histoire, la lumière s'éteint, et il vous dit, mais chez mon ami là, qui dort dehors, est-ce que c'est possible? Bah oui, vous vous rendez compte que c'est vraiment concret, c'est quelque chose qui saisit aux tripes et qui n'est pas acceptable.
Pour ces enfants, la maison, c'est l'école. Alors quand sonnent les vacances, c'est leur monde qui s'écroule. Trésor et Clarisse viennent d'Angola, quatre enfants nés en France, sans logement, mais scolarisés à tout prix.
L'école, c'est la vie de demain pour les enfants, quoi.
À l'école, ils peuvent manger quelque chose, mais pas avec nous à la journée.
Un cas loin d'être isolé. Selon l'INSEE, en France, 30 000 enfants sont sans logement.
Reportage à Lyon, signé Laura Lavanne. On termine par quelques mots de la météo qui sera encore bien pluvieuse ce matin sur une large partie du pays, à l'exception du sud-est. Côté température, les maximales atteindront 16 à 20 degrés en général, 20 à 22 sur le centre-est et 20 à 26 en descendant vers la Méditerranée.